Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans 2 ans, jour pour jour, on commémorera le centenaire d'une bataille que les historiens rangent parmi les 18 batailles les plus importantes de l'histoire du monde et que l'Europe chrétienne compare aux victoires contre les musulmans à Lépante et à Vienne, qui ont sauvé le continent de l'invasion musulmane. Il s'agit de la bataille de Varsovie, dont la guerre entre la Pologne et la Russie bolchevique, le 15 août 1920. En 1920, cela faisait à peine 2 ans que la Pologne avait reconquis sa souveraineté nationale, après plus d'un siècle de partage, et déjà il lui fallait la défendre contre la Russie rouge. Au deuxième congrès de l'Internationale communiste, Lénine prophétise : oui, les troupes soviétiques sont à Varsovie. Dans peu de temps, nous aurons aussi l'Allemagne. Nous reconquérons la Hongrie et les Balkans se soulèveront. L'Italie tremblera. L'Europe bourgeoise craque de tous les côtés au milieu de cette tempête. Un des maréchaux soviétiques dit à sa cavalerie : d'ici la fin de l'été, on entendra le son des sabots de vos chevaux dans les rues de Paris. Depuis le début d'août 1920, l'armée polonaise, avec ses soldats épuisés, affamés et surtout découragés, se trouve dans une permanente retraite. L'Église, toujours unie à la nation, demande aux fidèles et aux clergés de s'associer tous à la défense du pays, de servir la patrie jusqu'à sacrifice de la vie. Dès le mois de mai, on célèbre dans toutes les églises des messes solennelles suivi du salut du Très-Saint-Sacrement et des litanies du Sacré-Cœur. On donne aussi, si l'on peut dire ainsi, assaut au cœur de la Mère de Dieu, à Częstochowa, sanctuaire marial le plus important de Pologne. Et là, l'épiscopat, entouré des milliers de fidèles, met tout le pays sous la protection de la Sainte Vierge, en la choisissant de nouveau comme patronne et reine de la Pologne. Nous tendons vers vous nos mains, dit-on à la Vierge Noire, implorant votre pitié afin que vous nous veniez en aide dans cette extrême nécessité. Repoussez l'ennemi loin de frontières, rendez-nous la paix, l'ordre si désiré. Exterminez de nos cœurs le levain de discorde. Les évêques polonais envoient aussi des lettres aux épiscopats du monde entier, ainsi qu'au pape Benoît XV, lui demandant les prières et des bénédictions pour la Pologne menacée par les bolcheviques. La Pologne, écrivent-ils, est la dernière barrière sur la route du bolchevisme vers la conquête du monde. Si elle devait s'écrouler, le bolchevisme se répandrait dans le monde entier avec toute sa puissance de destruction. Et on souligne le risque que court l'Église. En plus de sa doctrine et de son action, le bolchevisme porte en lui un cœur plein de haine. Et cette haine est surtout dirigée contre le christianisme. Il est dirigé contre la croix du Christ et contre son Église. Mais le monde reste sourd aux appels à l'aide des Polonais. En revanche, le pape fait prier le monde catholique pour obtenir la victoire contre le communisme. Ce n'est pas seulement l'amour de la Pologne, écrit-il, mais l'amour de toute l'Europe qui nous pousse à désirer que tous les fidèles s'unissent à nous pour supplier le Très-Haut, afin que, par l'intercession de la Très-Sainte Vierge Marie, protectrice de la Pologne, qu'il veuille épargner au peuple polonais ce suprême malheur et qu'il veuille en même temps éloigner ce nouveau fléau de l'Europe exsangue. La France, avec le pape, fera partie de rares pays qui répondront à l'appel de secours. Ce sera la mission militaire de 200 officiers qui aideront à la formation des officiers polonais, sous la direction du général Weygand, qui d'ailleurs deviendra conseiller du chef d'état-major polonais. Le 13 août, lorsque les bolcheviks, déjà sûrs de leur victoire, sont au port de Varsovie, le chef d'état-major polonais, tenant compte de facteurs de surprise, soutenu par les prières de toute la nation, donne l'ordre de contre-attaquer. Passons sur les détails de la bataille, c'est l'affaire des historiens. Bataille qui finira le jour de l'Assomption. On y verra le 17 officiers français du général Weygand en gants blancs marcher dans la première ligne de l'armée polonaise pour ranimer le courage des soldats. On y admirera aussi la bravoure du père Skorupka, aumônier vêtu de sa soutane et de son étole, le seul officier resté en vie de son régiment, guidant ses compagnons à une contre-attaque, ce qu'il paiera de sa vie. Enfin, les bolcheviks seront terrifiés par la vue de Notre-Dame au-dessus des troupes polonaises. Plusieurs d'entre eux l'attesteront sous serment. Peu de temps avant la bataille, les communistes en Occident écrivaient ainsi : le pape compte sur l'intercession de la Vierge Marie. Il n'est pas au bout de ses peines s'il croit en l'efficacité de la Vierge. 3 millions de soldats russes et leurs canons vaudront beaucoup plus que tous les chapelets du monde. La réalité démentit les paroles méprisantes. Et le 8 septembre de la même année, à la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, le pape s'adressa ainsi à l'archevêque de Varsovie et au primat de Pologne. Ces derniers temps, nous étions anxieux au sujet de la situation en Pologne. Aussi avons-nous appris avec plaisir les victoires qui ont heureusement changé, en dehors de toute prévision, la situation de votre patrie. Nous n'avons jamais douté que Dieu n'assista votre nation, qui a si bien mérité de la religion au cours des siècles. C'est pourquoi nous avons prescrit des supplications publiques au moment où l'on désespérait presque partout du salut de la Pologne, et où les ennemis eux-mêmes, éblouis par leur nombre et leurs avantages, se demandaient follement les uns aux autres « Où est-il leur Dieu ?» Quelles seront les conséquences pratiques, chers fidèles, pour nous, du récit de la bataille de Varsovie, presque 100 ans après ? La toute première conséquence, c'est que nous aussi, nous devons mener une bataille spirituelle, surtout sur le front personnel. Combattre ainsi consiste à lutter pour extirper nos passions et nos tendances perverses, pour tendre à nous libérer du péché. C'est la conversion totale et un effort de croissance dans la vie intérieure. Mais pour combattre, il faut des armes. Et dans cette guerre où notre propre âme est en jeu, la toute première arme, c'est la prière. Voici la deuxième conséquence. Voyons seulement comment prier pour combattre. Prier, c'est d'abord être convaincu que sans notre Seigneur, on ne peut rien faire de surnaturel. Non pas presque rien, mais rien, absolument rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. nous a-t-il déclaré lui-même. Mais cela ne suffit pas. Au sentiment de mon impuissance sans notre Seigneur, je dois joindre le sentiment de ma toute-puissance avec notre Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, et je peux tout en celui qui me fortifie. Parfois, cependant, je priais et je n'ai pas réussi. Et puis, découragé, je me dis, c'est inutile, je n'obtiens rien. En fait, j'aurais dû continuer de prier. Notre Seigneur nous a promis de nous exaucer certainement, mais non pas immédiatement. Au contraire, il a insisté sur la nécessité de demander, de frapper, de l'importuner. Enfin, pour avoir le plus de certitude, pour que ma prière soit vraiment efficace, je dois toujours passer par la Sainte Vierge. Parce qu'elle obtient tout de son Fils, elle participe à la toute-puissance de Dieu. On l'appelle la toute-puissance suppliante. Parce que je ne peux rien sans la grâce, et que toute grâce nous vient par elle. Enfin, si les démons sont plus forts que l'homme, Marie est incomparablement plus forte que tous. Demandons donc à notre Seigneur, que nous allons bientôt recevoir dans la Sainte Communion, de nous donner une grande confiance dans la prière adressée à lui par l'Immaculée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.